Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue pour un Roten sans flamme exceptionnel aujourd'hui. Oui, oui, exceptionnel parce qu'on a du beau monde autour de la table, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous allez être nombreux à nous écouter pendant 2 heures. Oui, je le sais, parce que les thèmes concoctés par Jean-Louis Tour sont top aujourd'hui. C'est pour ça que cette émission est exceptionnelle. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va ?
Ah ouais, ouais, très bien.
Bon, oui, elle est exceptionnelle parce que on a un champion du monde avec nous, hein, c'est Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut mon Jérôme, salut mon Jean-Louis.
Ça
salut
va Dugas.
Ça va, super bien. Écoute,
c'est l'été là, c'est l'été chez toi.
C'est l'été, c'est parti là.
Ah ouais. Ah ouais, là, il était temps, tu aimes bien.
Eh, oui, oh, aussi.
Ouais. Bon.
Bon. Le golf dans le froid, ça doit être moins rigolo quand même.
Ah bah je joue plus. Au début je jouais, il pleuvait, il faisait froid, mais là c'est fini maintenant.
Ah ouais. Moi,
je suis un joueur de Miami, je suis un joueur de Los Angeles, tu vois, l'Irlande, l'Écosse.
On a compris, ça progresserait plus.
Il y a pas que le golf, c'est partagé avec les copains de la famille 98, juste après.
Allez, tu vas de ta petite.
Non,
vas-y, dis pas les choses, va allez, vas-y.
Mais non, Lolo, Fab, Didier, c'est franchement.
Vous serez pas chez moi là, pourquoi tu veux que.
Ah non, mais ils viennent jouer de temps en temps. Non?
Didier qui?
Non, Didier. Six. Non.
Didier Six, joue très bien au golf.
Ouais, c'est vrai, on l'embrasse.
Didier Six, il vient à Marrakech.
Il vient à Marrakech.
Ouais, il vient à Marrakech, il joue au golf très bien. Lolo, ben, forcément, là, il joue plus trop. Et Antoine, ben, il va avoir un petit peu plus de temps. Écoute, j'espère jouer rapidement contre lui. Ouais.
Bon. Alors, Lolo, on va en parler. De Laurent Blanc. À 19h, puisque Roten sort
le président est là,
sur les dernières journées de championnat. Et c'est l'heure des projections dans certains clubs. À Lyon, par exemple, faut-il se poser la question du maintien de Laurent Blanc la saison prochaine? Ou est-ce que ce serait un manque de considération pour son travail, juste de se poser la question? 32-16, supporters lyonnais, on vous attend à 19h. À 18h30, Zinedine Zidane sera l'accusé du soir, encore une fois un membre de la famille 98, accusé de trop s'éloigner du foot s'il ne retrouvait pas un banc dès cet été. Ce sera tout à l'heure, 18h30. Le casar enchaîné, c'est à 18h45.
Je serais curieux de savoir le sale type qui a préparé ça et qui va accuser Zizou de ça, vraiment.
Reviens Zizou.
Attention, c'est deux personnes différentes. Hein. Ah ouais. Il y a le sale type qui a pensé au truc et celui qui va défendre l'idée après. Tu vois, il y en a deux.
Non, mais déjà qu'il peut pas te blairer, alors là pour le coup ça va être encore pire.
Il peut pas blairer Jean-Louis.
Non, ça c'est. Il adore Jean-Louis justement. Ah, Jean-Louis.
Je pense qu'il aime la franchise.
C'est pour ça que ça va un peu mieux avec moi.
Bon. Donc je vous disais le casar enchaîné 18h45.
Il m'a pas reconnu, mais bon.
T'as changé aussi, hein.
Oui.
À l'époque où vous êtes croisé sur le terrain, t'as changé. Il n'y a plus les mèches et tout.
C'est vrai que j'étais beau gosse.
Et puis t'es peut-être un peu plus sympa, non? Même toi, t'en es pas convaincu.
Il est plus sympa quand maintenant que sur le terrain?
Ouais.
Bah oui, un peu plus malin qu'avant, non?
Ouais, j'étais peut-être un con, oui.
Tu me reconnais?
Oui.
Sur un terrain, ça pouvait.
Est-ce que j'ai jamais dit que j'étais un. Ah oui.
C'est vrai, ça va être reconnu.
Ah, j'ai jamais entendu ça comme ça. Hein? C'est un aveu. Là, Jérôme, je t'avais jamais entendu parler de toi comme ça à l'époque.
Avec beaucoup de gens, c'est de ma faute, souvent les tensions, mais avec Zizou, c'est pas de ma faute, là, par contre.
Quand même, on retrouve Jérôme, j'ai eu un doute. Voilà. Donc, casar enchaîné, 18h45, avec un invité vedette qui était dans l'after hier, Julien va nous raconter tout ça. Mais tout de suite, on commence par le PSG et son sauveur.
Kylian Mbappé
est de retour dans le rôle de Rambo.
Kylian Mbappé,
le meilleur ancien combattant que j'ai jamais connu.
Ça, c'est un discours pour consoler.
Sa mission, localiser les prisonniers de guerre américains.
Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Il n'a plus que 36 heures pour remplir sa mission.
Mbappé.
Il veut s'en sortir par n'importe quel moyen.
Moi, tu me parles pas d'âge. Quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Je lui mets un putain de coup de tête.
C'est incroyable.
Quelle violence.
Ouais, exactement.
Il y a des gens qui ont de la violence en eux. Hein.
Ah, c'est dingue.
Voilà.
C'est dingue.
C'est vrai, c'est possible.
Heureusement qu'il y a le sport qui permet de l'extérioriser.
Oui.
Le problème, c'est quand il n'y a plus de sport.
Bon. Le problème, c'est que t'es enfermé dans un vestiaire.
Alors, on a commencé à évoquer ça hier, le PSG. Veut plus que jamais construire son équipe autour de Kylian Mbappé, le champion du monde qui entre dans sa dernière année de contrat à Paris. Le but est de le convaincre du nouveau projet pour peut-être le prolonger plus tard ou activer une année en option. Donc il faut convaincre Kylian Mbappé. Alors cette politique sportive construite autour donc d'un joueur libre dans un an, est-ce que c'est une folie? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Avant le débat, les infos du jour. Fabrice Hawkins nous rejoint. Salut. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Allez Fab.
Déjà sur le front de l'entraîneur à trouver pour la saison prochaine, ça a bougé.
Oui, parce que Xabi Alonso est courtisé par le Paris Saint-Germain aux yeux des dirigeants à Doha. L'entraîneur de Bayer Leverkusen a les épaules pour prendre la suite de Christophe Galtier. L'entraîneur de 41 ans n'a pas le CV le plus épais. Avant d'arriver en Bundesliga, il s'est occupé des équipes de jeunes du Real Madrid et de la réserve de la Real Sociedad. Mais son profil a tapé dans l'œil du PSG. Les décideurs du club sont admiratifs de son parcours avec le Bayer Leverkusen qu'il a pris en cours de saison à la 17e place. Aujourd'hui, le club allemand est 6e. Il y a donc des contacts entre Xabi Alonso et le PSG, mais le mariage paraît difficile. D'abord parce que l'Espagnol rêve d'entraîner le Real Madrid à court terme. Ensuite, parce que son club souhaite le conserver et même le prolonger. Dans la shortlist, il y a également José Mourinho, on en parlait, et puis Thiago Motta. Ils sont séduits tous deux à l'idée de rejoindre Paris, mais en interne, ces deux noms ne font pas encore l'unanimité.
D'accord, donc plusieurs pistes explorées. Et sur l'effectif, sur les joueurs, là aussi, il y a pas mal de choses qui circulent. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
On peut dire déjà que Manuel Ugarte a de bonnes chances de devenir la première recrue parisienne cet été. Et j'avoue qu'on ne l'a pas vu venir. C'est un milieu défensif de 22 ans qui évolue au Sporting Portugal. Paris est en négociation avancée pour obtenir sa signature. On parle de 60 millions d'euros, c'est le prix de sa clause. L'international uruguayen est peu connu du grand public. Il est très courtisé en Europe, notamment en Angleterre, pour vous donner une idée sur son profil. C'est un gros ratisseur de ballon en Ligue des Champions par exemple. Manuel Ugarte est le joueur le plus efficace au nombre de duels gagnés, 11 toutes les 90 minutes. L'une de ses références s'appelle Sergio Busquets. Et puis l'autre dossier que l'on va suivre prochainement et dans les prochains jours, c'est Lucas Hernandez, l'international français que vous connaissez tous évidemment. Il discute avec la direction sportive du PSG. On sait que Paris cherche à se renforcer dans ce secteur défensif. Il serait un défenseur de plus. On sait déjà que Milan Skriniar devrait arriver en provenance de l'Inter Milan. Luis Campos cherchait un axial gaucher. Il s'est jeté sur Lucas Hernandez qui arrive en fin de contrat avec son club dans un an. Il a mis en stand-by ses discussions avec le Bayern Munich qui veut le prolonger. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, il n'a pas pris de décision. Il a repris l'entraînement tranquillement mardi avec le Bayern Munich et dans les prochaines semaines, il devrait en dire un petit peu plus sur son avenir.
Ok, merci Fabrice pour toutes ces infos. Jérôme, tu veux dire un mot sur tous les noms qui circulent, que ce soit sur l'entraîneur ou les joueurs?
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans, c'est que on a eu vent de certaines discussions avec certains joueurs. Limite certains, et comme ça a été affiché aujourd'hui, Lucas Hernandez qui avait déjà donné un accord, alors qu'il n'y a même pas encore d'accord avec le club en question, que la saison elle est pas finie, que au Paris Saint-Germain en l'occurrence il y a encore un entraîneur, que tu lui as même pas dit encore, même si tout le monde le sait qu'il va partir, mais il y a moins de des choses, c'est d'être respectueux envers cet homme-là, soit clair avec lui et puis attendre finir la saison, mais un entraîneur, et avec l'entraîneur en place et le directeur sportif si c'est encore Luis Campos, bah tu fonctionnes en totale adéquation pour recruter des joueurs et pour bâtir une équipe avec un vrai profil, parce que moi ça m'interpelle tout ça. Dire tu prends Lucas Hernandez, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais est-ce que il rentrera dans le profil du futur entraîneur? On ne sait pas, même si c'est un grand joueur, il aura vrai à s'imposer. Quid de Kimpembe? Parce que bon, si Kimpembe revient, même s'il lui reste un an à la fin de son contrat, est-ce qu'ils veulent en faire encore un titulaire ou un remplaçant? Parce que si tu prends Lucas Hernandez et que tu as déjà Nuno Mendes sur le côté gauche, Lucas Hernandez, c'est pas pour faire jouer arrière-gauche, on est d'accord. Donc c'est pour faire jouer dans l'axe, à la place de Kimpembe. Donc tout ça, si tu veux, ça m'interpelle.
Fou, en fait,
et je me dis que bah, ils se servent pas de... tout ce qui a été mal fait depuis pas mal de temps et qu'on est certainement reparti encore vers pas mal de désillusions.
Okay. Ouais. Je suis moyennement d'accord là, Jérôme.
Vas-y, dis-moi.
Alors, je comprends ce que tu veux dire sur la priorité des choses. D'abord, on choisit un entraîneur et ensuite on choisit les joueurs en fonction du projet de jeu. Je partage ton avis. Après, c'est toujours des clubs un peu particuliers, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Barça, où les dirigeants ils aiment bien se faire des kiffs, quoi. C'est-à-dire que ils aiment bien prendre les initiatives, acheter des mecs eux-mêmes, que ce soit le président qui a son chouchou, le directeur sportif qui croit en lui. L'avantage, enfin, y a l'inconvénient, bien évidemment, c'est que ces joueurs, on ne sait pas s'ils vont se fondre dans le système du futur entraîneur. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est des joueurs de niveau international. T'as pas quand même à te soucier. C'est pas des joueurs, on va dire, moyens.
Oui,
voilà,
oui,
tu sais que ça va quand même. Tu sais que c'est les trois joueurs là dont on parle. Tu sais que dans n'importe quel système,
ils vont s'adapter.
Fait leur preuve,
oui, bien sûr.
Voilà,
bien sûr,
ils vont s'adapter. Tu sais qu'ils auront leur place. Même tu parles de Lucas Hernandez, même si c'est il peut jouer arrière gauche, il faut de toute façon deux latéraux gauche, ça fait des joueurs de haut niveau. Tous les entraîneurs vont être quand même globalement assez unanimes sur les trois joueurs qui ont signé là. Donc bon, ça fait partie du deal, ça me rappelle, tu sais, un peu Zizou quand il était au Real Madrid, que Florentino Pérez, il a acheté des joueurs de lui-même,
ouais,
tu vois,
mais
Zizou, il dit bon, je sais que ça va être des grands joueurs, ouais, donc je suis pas inquiet, tu vois, ça fait partie de la négociation que tu as avec ton président, tu vois, chacun fait un peu joueurs dont il a besoin.
Duga, on peut pas franchement, j'ai du mal à comparer ce qui se fait au Real Madrid avec Florentino Pérez et ce qui se fait au PSG avec les Qataris, il faut reconnaître. Pour l'instant, même quand ils ont eu des bonnes idées de recruter des grands joueurs, des noms, à l'arrivée, ils l'ont repris dans la tête.
La politique sportive des Qataris, justement, on y va. Donc,
même prolonger des mecs. Tiens.
On construit l'équipe autour d'Mbappé, qui potentiellement peut partir dans un an. Est-ce que c'est une folie, Jérôme ?
Oui, folie, oui et non, je vais te dire. Qu'est-ce que ça veut dire autour de Mbappé ? Que Mbappé soit content beaucoup plus qu'il l'est actuellement dans le vestiaire, c'est pas bien dur, tu vas me dire, parce que j'imagine qu'il est pas très content des améliorations, du moins qui semblaient être des améliorations, de changer l'ADN du vestiaire, la mentalité du vestiaire. Franchement, ça fait pchit. Hein. Depuis le début de l'année, on peut pas dire que ça a donné raison à Campos et à Galtier, qui sont les deux responsables du sportif. Pour moi, ça, rien n'a changé. Les joueurs, ils font toujours la même chose. Ils s'entraînent quand ils ont envie de s'entraîner, avec un niveau d'intensité qui est bien inférieur à tous les autres grands clubs européens. Ça, c'est la réalité, même si je suis pas tous les jours au quotidien à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester City, à Manchester United. Mais tu le sais. Et tu sais, eux-mêmes, les joueurs, comme tu dis Fabrice, toi t'as des joueurs avec qui t'échanges, moi j'échange aussi avec d'autres. On peut pas dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que quand t'as des joueurs comme Kylian Mbappé, c'est pas le seul de l'effectif, qui sont demandeurs de passer un cap encore pour gagner la plus belle des compétitions, parce qu'il est resté là pour ça. Et ben là, il voit que le club a reculé, donc il sera forcément content de voir qu'il y a des changements et que le club essaye d'améliorer les choses. Après, tu vas essayer de construire avec lui sur un an. De toute façon, il lui reste un an de contrat. Après, il fait ce qu'il veut. Donc, tu vas construire sur un an en espérant, sur l'année, essayer de lui faire changer d'avis pour qu'il reste encore plus longtemps. Mais moi, ça me choque pas de faire en fonction la mentalité, la personnalité et surtout le mental de Kylian Mbappé. Ça me paraît logique, quoi. C'est un grand joueur, Dugan, comme tous les grands joueurs.
Et comme Jérôme, il n'y a rien qui te choque ?
Non. Moi, j'aime pas l'idée. Voilà, l'idée ne me dérange. Après, que Mbappé soit un grand joueur, que ce soit le meilleur joueur, qu'il ait le meilleur salaire, voilà, qu'il soit le joueur le plus concerné lorsqu'il va y avoir des choix à faire. Bon, allez, pourquoi pas. Mais j'aime pas l'idée. Voilà, j'aime pas l'idée parce que quand on parle que l'institution doit être plus forte qu'un joueur, m'expliquer qu'il faut construire l'équipe autour de Kylian Mbappé. J'ai aussi des doutes sur un joueur qui avait quand même les clés du camion l'année dernière. On a vu comment ça a fonctionné. Il a choisi son directeur sportif. Les joueurs qui ont signé, j'imagine, avec la prolongation qu'ils ont fait, qu'il a donné son avis aussi. Donc, les choses ont déjà été essayées. Il lui reste un an de contrat. Baser les trucs sur lui, malheureusement. Comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable perspective sportive et de choix sportif qui est fait, c'est presque facile. Tu prends ton meilleur joueur et tu dis voilà, notre projet sportif, c'est de créer autour de Kylian Mbappé. Mais ça, c'est pas un projet sportif, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Autour de Kylian Mbappé, pourquoi? Pour le marketing, pour le merchandising, pour l'image. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, mais du gars, ils l'ont pas dit, ça. Hein.
Ils l'ont pas dit.
C'est les journalistes qui mettent ça en avant. Du moins qui...
Pour moi, ça veut rien dire.
Quoi, tu veux dire que le PSG veut pas construire autour d'Mbappé?
Non, mais comme le dit Duga, je pense qu'on a la même vision.
Non, mais après tu recrutes qui autour d'Mbappé? C'est les amis d'Mbappé, après tu fais une soirée, les
mais enfants. Il est là le problème. Ça veut dire que j'ai une discussion, pour tout vous dire, avec Jean-Louis, qu'on a construit l'émission de tout à l'heure. Mais c'est vrai, j'ai rien à cacher là-dessus. Et Jean-Louis, c'est pas contre toi, hein, parce que. Mais Jean-Louis me dit, oui, Lucas Hernandez, tout de suite sa réflexion, ah ouais, c'est
assez bien. C'est normal, c'est un ami de Kylian Mbappé.
Bah, ils s'entendent bien, ouais. Ils ont été champions du monde ensemble.
Bernardo Silva également.
Qu'est-ce que je t'ai dit
Colomani aussi.
Mais je t'ai dit, oui, c'est un Français, il est champion du monde, il a partagé le vestiaire. Et quand tu étais champion du monde, et tu sais encore mieux que moi ce que ça veut dire, les liens que tu crées quand tu gagnes cette compétition-là, j'imagine que oui, il s'entend bien avec Lucas Hernandez et qu'il n'y a pas de tension. Mais. Et je t'ai dit, c'est pas Kylian Mbappé qui a dit aux dirigeants, parce qu'il a d'autres chats à fouetter.
Mais non, mais Jérôme, à chaque fois, tu me dis ça, mais on dit pas que c'est Kylian Mbappé qui fait le mercato.
Ben oui.
Mais si les dirigeants, leur but, c'est de faire plaisir à Kylian Mbappé, de le mettre dans les meilleures conditions pour que peut-être il puisse prolonger son contrat,
c'est pas la même chose.
Oui, mais ça revient au même chose. À l'arrivée. On fait l'équipe pour Kylian Mbappé. On construit l'équipe pour lui. Je dis pas que lui décide de tout, mais il n'empêche quand même qu'il y a un truc un peu malsain là-dedans.
C'est pas la même chose. Est-ce que tu fais pour faire plaisir à Kylian Mbappé ou est-ce que tu fais pour mettre en valeur ton meilleur attaquant et qu'il soit encore meilleur?
À l'arrivée, le projet est de construire l'équipe autour d'Mbappé qui dans un an est libre.
Non mais
c'est pas tout à fait la même chose, parce que tu prennes Lucas Hernandez ou par exemple Silva, au niveau de l'état d'esprit, même si c'était proche de Kylian Mbappé, pour le coup, tu peux dire que c'est du 100%, c'est des vrais renforts qui ont un état d'esprit irréprochable. Si c'est pour prendre un copain d'Mbappé pour faire plaisir à Mbappé qui est une quiche, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, il y a quand même une limite, c'est toujours un numéro d'équilibriste, moi Jean-Louis, quand tu es dans un recrutement comme ça. Parce qu'il faut faire plaisir à Doha, il faut faire plaisir à Campos, il faut faire plaisir au nouvel entraîneur, il faut faire plaisir à ton meilleur joueur. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile. Le dénominateur commun doit être, aujourd'hui, c'est que les joueurs qui doivent être recrutés doivent avoir un état d'esprit irréprochable.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais tu me dis en même temps que il faut faire plaisir à un tel.
Non,
ça doit pas être une politique sportive. Ça doit être comment on monte la meilleure équipe possible pour gagner la Ligue des Champions.
Tu t'attaques au PSG avec et on le sait et encore hier je le disais, c'est que le Qatar c'est pas un problème d'argent. Ok, ils ont beaucoup d'argent. Ils aiment ce qui brille. C'est comme ça depuis donc automatiquement, ils vont déjà vouloir, comme dit Duga, vouloir se faire plaisir sur des joueurs qui brillent plus que certains. C'est comme ça. Donc Mbappé en fait partie, mais il y en a d'autres aussi. Et tu verras que si Neymar et Messi y partent, ils vont essayer de se faire plaisir sur un ou deux aussi. Mais après, c'est l'ensemble, c'est le collectif. Et moi, je vais te prendre le problème à l'envers. Jean-Louis.
Non, attends. Est-ce que tu peux me le prendre à l'envers dans une seconde? Parce que sinon, je vais te couper au milieu du problème à l'envers et ça va pas aller. Tu vas perdre le fil et ça va être compliqué. Donc, on revient dans une seconde. On donne la parole aussi à Stanley au 32-16.
Je le mets sur le pied gauche, là.
Est-ce que construire l'équipe autour de Mbappé, c'est une folie? Le débat continue dans une seconde. À tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h19 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats sur le Paris Saint-Germain. Ben oui, ça fait toujours parler, forcément. Et ça va nous faire encore plus parler les prochaines semaines parce que le mercato va commencer. C'est l'équipe, la reconstruction, la destruction de l'équipe et la reconstruction. Elle est là, elle est en place avec Christophe Dugarry. On en parle avec Jean-Louis. Mon Jean-Louis, on continue.
Zidane, ce sera 18h30. Est-ce que s'il n'entraîne pas cet été, il s'éloigne trop du foot? Ce sera le fait d'entrer l'accusé du soir. On est sur le PSG. Construire une équipe autour de Mbappé, est-ce une folie? Mbappé qui a un an de la fin de son contrat. Tu as commencé ta phrase par, on va prendre le problème à l'envers.
Le problème à l'envers, c'est que imagine, on va dans ton sens, tu construis pas l'équipe autour de lui. Tu fais comme si c'était un joueur lambda. Tu peux pas. Tu peux pas le faire. Parce que s'ils le font, automatiquement, il y a une place qui est réservée à Kylian Mbappé. Il sera à la pointe du projet. Automatiquement. Même si tu te dis dans un an, il sera plus là. Mais dans un an, c'est pas grave. Tu auras le temps de voir venir. La réflexion
C'est pas une politique sportive, en fait, Jérôme.
Mais la politique sportive.
Je vais te dire, c'est un club où il est impossible de mettre une politique sportive.
Mais non,
une politique sportive normale. Un club normal. Mbappé est vendu cette
année. Oui,
été. Soit il est vendu, soit il prolonge.
Mais ce club-là.
C'est tout.
Ce club-là ne fonctionne pas avec la même normalité que les autres clubs. C'est-à-dire que le problème n'est pas financier. Le PSG perd 400 millions, laisser partir libre Kylian Mbappé dans un an, comme c'est parti pour l'instant.
Je dis pas que c'est financier le problème.
Ils en ont rien à faire.
Mais ça, Jérôme, j'ai compris. Mais je parle de politique sportive.
Mais la politique,
il y a aucune vision. Mais la vision, elle est à un an. Même à deux mois.
Alors,
c'est-à-dire qu'en deux mois, il faut convaincre Mbappé que le projet est solide.
C'est ça la vision du PSG. Là, je te rejoins.
C'est pas sérieux quand même.
Là où je te rejoins pas, c'est que le projet aujourd'hui, il est pas bon. Ok, c'est le néant complet. Donc il faut tout refaire. Tout refaire. T'es obligé de faire en fonction de Kylian Mbappé, qui est ton meilleur joueur du monde. Donc tu vas créer un collectif. Et Duga le disait plus ou moins. C'est
tu vas prendre des joueurs qui sont là pour renforcer cette équipe. Et là, les noms que Fabrice nous a donnés, en effet, t'as l'impression que cette équipe, elle va être renforcée parce que la mentalité de ces joueurs-là, elle est exemplaire aujourd'hui dans leur club. Et c'est bien ce qui manque aujourd'hui au PSG. Et tu vas être dans la continuité de ce que veut Kylian Mbappé, parce qu'on peut lui reprocher plein de choses à Kylian, mais sa mentalité, le fait d'être toujours là au bon moment, de jouer, de s'entraîner, d'essayer de progresser, de battre les records, c'est la réalité. Il lui faut des joueurs autour qui ont la même mentalité. Voilà, c'est pour ça que tu.
Après, Jérôme, t'as raison, il n'y a rien à reprocher à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au niveau mentalité, au niveau saison, il n'y a rien à dire. Voilà, bravo, gamin. Voilà, ça n'a certainement pas été facile tous les jours. Voilà, mais Jean-Louis, là où je comprends ce que tu veux dire, la politique sportive d'un club, sauf que le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres. Et son propriétaire est un des mecs les plus riches au monde. C'est un État qui est propriétaire, donc ça ne rêve pas. Ça ne sera pas, tant que ce sera ce propriétaire-là, ce club ne fonctionnera jamais avec une politique sportive normale.
Et c'est un problème. Moi, je dis juste que c'est un problème.
Mais justement, alors, mais une fois qu'on a dit ça, mon Jean-Louis, il faut trouver une solution pour s'adapter et pour trouver un espèce de compromis. Par exemple, Neymar, c'est la première personne à faire partir, avant de penser à faire plaisir à Mbappé, à prolonger Mbappé, déjà, fais partir Neymar. Parce que si tu fais pas partir Neymar, là, t'as gourbi. Parce que Neymar, les déclarations, enfin les likes qu'il a fait, les j'aime là sur la déclaration du journaliste là qui a défoncé Kylian Mbappé, que le mec il a liké cette photo. Ouais, ouais. On a beau m'expliquer que c'est un truc de journaliste, ça, c'est gravissime.
Ouais, oui.
Comment tu peux cohabiter avec un joueur qui par l'intermédiaire d'une autre personne a défoncé ton coéquipier. Ça c'est scandaleux. Il est là, la première des choses à régler. Pour moi, c'est là. Après Mbappé, comme a dit Jérôme, et je pense qu'il a en partie raison, chaque chose en son temps. Un an, c'est vrai qu'il ne respecte qu'un an de contrat. C'est pour moi, c'est un problème parce que j'aime pas qu'on parte de l'idée qu'on doit faire une équipe autour d'un joueur. Moi, ça me dérange parce que je suis comme toi, le collectif, le sens du collectif,
avant tout,
l'esprit de l'équipe. Non. Mais c'est un club différent des autres. Là, aujourd'hui, malheureusement, il y a d'autres priorités.
Voyons ce qu'en pense Stanley. Et je précise que sur Neymar, on en a parlé en début de semaine, de la volonté de Campos de lui trouver une porte de sortie en Angleterre. Exactement. Notamment, vous pouvez podcaster ça. Stanley est là au centre de 16 jours.
Salut Stanley.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bon.
Salut Christophe. Salut Jérôme.
Écoute, un plaisir de t'avoir, Stanley. Tu nous as entendu là parler sur Kylian Mbappé.
Depuis tout à l'heure.
Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Après, on dit le thème du débat, c'est quoi? Est-ce que c'est problématique de construire une équipe autour de Kylian Mbappé? En l'occurrence, c'est un thème de journaliste. Hein. C'est pas le club qui a communiqué comme ça.
Bien sûr, je sais bien. Moi, je suis fan du PSG depuis longtemps déjà, et puis, je trouve que c'est répétition sur la politique sportive. Après, Mbappé, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, forcément, c'est un joueur qui va être impactant sur les matchs importants, et construire autour de lui, je trouve, c'est, même s'il ne reste plus qu'un an de contrat et que c'est quand même un peu gênant dans la perspective d'avenir, mais je trouve que c'est quand même important et c'est surtout se renforcer au niveau défensif. C'est les grosses errances qu'on a vues cette année sur le Paris Saint-Germain. Quand t'as Messi, Neymar et Mbappé qui jouent devant, défensivement, t'as des gros problèmes. L'équilibre n'est pas bon. Et après, bien sûr, le souci, c'est qu'on ne sait pas l'entraîneur l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que tu vas construire une équipe? On parle de plein de noms. En fait, on ne sait pas l'entraîneur. Donc, soit on construit une équipe et l'entraîneur, les joueurs ne vont pas lui plaire. On fait comment?
Mais est-ce que déjà, alors, tu es un fan du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé, mais c'est quoi le poste de Kylian Mbappé? Aujourd'hui, t'as Kylian Mbappé dans ton équipe, tu le fais jouer quel poste la saison prochaine?
Mais oui.
Bon, attaquant gauche,
Pour moi, je le fais jouer sur un côté.
Comme en équipe de France.
Pour moi, je trouve que c'est là où il est le plus efficace.
Il a pas joué comme ça avec le Paris Saint-Germain.
Non, c'est sûr. Mais il l'a déploré d'ailleurs. Il attend son attaquant pivot, son 9.
Ouais, mais sauf que,
par exemple, il y a des joueurs qui ont parlé, Harry Kane, je trouve que c'est un profil qui correspondrait parfaitement avec Mbappé. Mais après, c'est idyllique, bien sûr. Mais voilà, il faudrait un profil d'attaquant qui soit costaud, efficace dans la surface, pour justement Mbappé s'appuie dessus. Pourquoi en équipe de France, il y a eu une mauvaise entente au début avec Giroud, mais à la fin, on voyait bien qu'avec Giroud, justement, l'équilibre était bon parce qu'il avait ce point d'appui juste devant lui.
On a bien prendre Giroud.
Mais pourquoi ils l'ont pas fait la saison dernière alors? Pourquoi la saison dernière ils l'ont pas fait?
Je sais pas, c'est ça que je comprends pas. C'est sur la politique qu'ils ont dit.
Ils ont pris Ekitike, qui était censé remplir ce rôle.
Non, ah, Ekitike a été pris pour être la doubleur de Kylian au départ. Hein. Ouais. Franchement, c'était ça. Dans l'esprit, c'était. Mm. Rappelle-toi, et c'est pas moi qui le dis, Campos et même Galtier l'ont dit, c'est que t'avais Messi et Neymar et avec Kylian devant en
ils
pointe.
Ils devaient faire Lewandowski que, ou un attaquant.
Ouais, aussi ils ont voulu mettre Scamacca aussi là, je crois qui est parti.
Ils voulaient un pivot. Kane, Lewandowski, Scamacca, ils ont réussi à faire aucun des trois.
Voilà, donc.
C'était ça l'idée.
Mais à l'arrivée du gars, tu as raison. Sur la position de Kylian cette année, il a rarement été, alors même s'il est très libre sur le fond de l'attaque, mais il a rarement été comme il est en équipe de France, attaquant côté gauche.
Ouais, bah c'est
il
ça.
Est il là aujourd'hui, regarde tous les buts qu'il a mis. Et c'est moi, je trouve que il a quand même progressé dans ses appels de balles. C'est que maintenant, de l'axe, il arrive à bonifier ses positions-là. Mmh. Avant, il était un peu trop statique, il aimait pas le jeu dos au but, même si, bon, il est pas grand fan encore, il doit progresser même avec son jeu de tête. Mais n'empêche que les déplacements, les bons déplacements, toutes les passes des, moi, on peut rigoler là-dessus, mais de Léo Messi, elles viennent souvent de sa position axiale, contrairement à avant où il partait du côté gauche.
On remercie Stanley au 32-16. On remercie Fabrice Hawkins également pour toutes ces infos qui sont sur rmcsport.fr si vous êtes arrivé en cours de route. Dans une seconde, Zidane. Est-ce qu'il doit absolument s'entraîner cet été? C'est le débat dans Faites Entrer la Cuisine. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h31 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme, la deuxième demi-heure avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. Ratez pas le moment de Julien Cazard, bien sûr, dans 15 minutes. Mais Jean-Louis, donne-nous la suite du programme.
Le dossier Zidane, tout de suite, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
La cour décide que des éléments suffisants ont été réunis pour déférer l'inspecteur
Jérôme Roten
devant la cour d'assises. Le procès devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
Faites entrer l'accusé.
Alors ce sera sans doute l'un des feuilletons de cette intersaison. Que va faire Zinedine Zidane cet été? Il y a un mois, sur rmcsport.fr, on parlait de la Juve qui en avait fait sa priorité. Entre temps, il y a eu les points de pénalité, l'absence de Ligue des Champions l'an prochain, ça pourrait peser dans les réflexions. On sait qu'à Doha, son nom est toujours cité pour le PSG, même si, on en a parlé tout à l'heure, on travaille à d'autres profils. On sait que l'Angleterre ne l'attire pas forcément, que le Real ne cherche pas de coach puisqu'Ancelotti a eu la garantie de continuer, il en a parlé en conférence de presse. Zidane n'a plus de banc depuis juin 2021. Alors il est accusé ce soir de trop s'éloigner du foot s'il venait à ne pas entraîner cet été. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
L'avocat Zinedine Zidane, c'est maître Christophe Dugarry. Bonsoir maître.
Salut à tous.
Et le juge qui va trancher l'affaire, c'est Kevin qui a fait le 32-16. Salut Kevin.
Salut Kevin. Et
bonsoir.
On te laisse écouter Kevin. Les deux parties Kev et tu nous dis pour qui tu tranches.
Okay.
Allez. Donc Jérôme, faut absolument entraîner cet été pour lui?
Zinedine Zidane, ça fera quasiment 2 ans qu'il n'aura pas entraîné cet été. Moi, je pars du principe que cet entraîneur-là qui a beaucoup gagné ne pourra pas continuer comme ça. Du moins, la passion reprend ses droits dans ces cas-là. Je pense qu'il a eu un moment où il a un peu déconnecté, et ce qui est normal parce que depuis qu'il a repris les rênes du Real Madrid il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, l'adrénaline est à son max, les dernières performances de Zizou à la tête du Real Madrid quand il est revenu ont été aussi impressionnants avec cette victoire en Ligue des Champions, donc ça bouffe de l'énergie, ça sans aucun doute. Après, je pars du principe que au bout de quelques mois, ça s'est estompé cette fatigue psychologique et que la passion reprend ses droits. Je peux comprendre aussi que il était en attente parce que c'est ce qu'il voulait. Il s'était exprimé là-dessus et le président de la Fédération française aussi au bout d'un moment, c'est ce qu'on lui reprochait parce qu'il y avait Didier Deschamps, mais que pourquoi pas il se voyait après la Coupe du Monde entraîner l'équipe de France. Donc reprendre un club à l'été dernier, ça pouvait être compliqué. La preuve, c'est que le PSG a essayé, d'autres ont essayé, et puis il y a eu des refus de sa part. Ça, je pouvais le comprendre. Mais aujourd'hui, quand tu sais que l'équipe de France, pendant maintenant quasiment 4 ans, elle va pas être libre, que au mercato d'été, il y a plein de clubs et des grands clubs qui vont être en reconstruction et qui ont besoin d'avoir un entraîneur, j'imagine que.
Tu trouves qu'il est trop exigeant au moment de choisir un projet?
au départ, je trouvais assez logique qu'il fasse confiance au cœur un peu plus, qu'il mette les clubs qu'il a connus en tant que joueur, peut-être redonner un petit peu, rendre ce qu'il a bien pris quand il était joueur. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, je pense que le fait d'être focalisé sur 2-3 clubs, s'ils sont pas libres, il faut qu'il ouvre un peu plus son portefeuille. On parle quand même de Zinedine Zidane. Je pense que si il pousse la porte de certains clubs, il y a plus de facilité quand tu t'appelles Zizou que tu t'appelles un autre entraîneur. Donc les portes vont s'ouvrir naturellement. Il faut qu'il communique dans ce sens-là aussi. Et je le vois pas parce que je reste passionné de football. Parce que même si vous savez les problèmes que je peux avoir avec lui, mais n'empêche que moi, voir Zinedine Zidane sans club, j'ai pas envie de le voir comme ça, comme j'ai pu voir Laurent Blanc pendant X années. Donc je trouve que le football a besoin aussi d'avoir des entraîneurs comme lui qui ont montré, et puis c'est là quand même la fierté française d'avoir gagné autant en tant qu'entraîneur, donc ça me paraît logique qu'il reparte cet été, et il aura des opportunités. Après, est-ce que ça va le satisfaire sur toute la ligne, je sais pas, mais j'espère bien qu'il repartira. Et s'il repart pas, je vais ronger mon frein quand même, et
ça te posera un petit souci, quoi.
Bah ouais, parce que je me dirais que l'amour du jeu, l'amour du football, bah peut-être que même chez Zizou, elle existe un petit peu moins, quoi.
Voilà. Alors, excuse-moi. Maître Dugarry.
Non, je vais.
Non, mais une nouvelle fois, le procureur est totalement à côté de la plaque, qui nous explique que le football manque à Zidane, c'est certainement le cas. Que Zidane manque au football, c'est certainement le cas aussi. Après, tu sais, ça me rappelle toujours quand un vieux garçon, tu sais, dans une famille, et que les parents, toujours, ils trouvent pas de fiancé, tu vois, ils trouvent pas chaussures à son pied.
Ouais.
Et puis les parents et les grands-parents, ils lui disent toujours: oh là là, t'es trop difficile. Non, mais il est pas trop difficile. Il a des critères, il a des envies. Il voit le football d'une certaine manière, ouais. Ce qui a fait de lui le joueur qu'il a été, l'entraîneur qu'il a été également. Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire. Ou alors tu deviens un fonctionnaire du football. Voilà, comme tu l'as très bien dit pour le coup, Jérôme, la passion, il l'a toujours. Il a envie, c'est certain. Ses envies, il les a données. Il les a affichés, il s'est pas caché derrière son petit doigt. Après, il n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et il a l'avantage, justement, d'avoir réussi dans ce rôle d'entraîneur. Attention, ça a été compliqué. Quand t'es Zinedine Zidane, que tu débarques dans le monde des entraîneurs, il est parti de la base, il a fait sa formation, il est passé par l'équipe réserve du Real Madrid, il s'est retrouvé entraîneur au Real Madrid, dans la première équipe, c'était pas facile, il a gagné. Donc, sincèrement, il a franchi toutes les étapes, ou presque, avec gloire,
avec brio.
Il va, avec brio, il va pas se fourvoyer dans un club qui ne l'intéresse pas, qui ne lui plaît pas, où lui n'est pas capable de faire passer sa connaissance du football, ses émotions, son envie, parce qu'il parle pas la langue. Pour lui, c'est un élément très important de pouvoir communiquer avec ses joueurs, de pouvoir partager quelque chose, de pouvoir vivre, d'être en osmose avec ses joueurs. Donc il n'y a pas de problème. S'il n'entraîne pas cette année, ben ce sera l'année prochaine. Et la force de s'appeler Zinedine Zidane, et surtout d'avoir réussi comme il l'a réussi en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir avoir le choix de reprendre quand il en aura envie et quand il aura le bon projet. Moi, ça ne me choque absolument pas.
T'as pas peur que les mentalités, non, qui changent et qui vont vite, et franchement, mon interrogation, elle est aussi là, de me dire que pas entraîner, donc pendant 3 ans, s'il n'entraîne pas cet été, ça va être un choc pour lui quand il va reprendre.
Il sera un peu déconnecté, c'est ça, de l'évolution du foot?
Non.
Non, je crois pas. Je crois pas. On verra à ce moment-là. Mais tu penses que le football évolue aussi vite que ça?
Bah, regarde Laurent Blanc.
Laurent Blanc, ça a été très long. Et Laurent Blanc, il a pas la réussite ni l'image de
Laurent Blanc. Non, ça, on est d'accord. Mais je trouve.
On peut pas comparer la réussite de l'un et la réussite de l'autre.
Oui, mais je trouve que dans son body language, ou même dans ses déclarations, Laurent Blanc, qui est peut-être un petit peu moins malin que Zinedine Zidane, ça, je veux bien le dire aussi. Mais n'empêche que t'as l'impression que des fois, il est un petit peu largué avec cette nouvelle génération, quoi.
Regarde, du gars, il a arrêté 3 ans la radio.
Bah, il a du mal à s'y remettre, mais bon.
Ouais, le rythme s'est levé.
Oui.
Alors, on va donner la parole au juge Kevin. Donc, tu tranches pour qui? Quel est ton avis?
Magnifique, moi, Kevin. Je vais trancher pour du gars à 100%. Il est Zidane. Il a tout gagné, et tout gagné, autant qu'il a gagné en tant qu'entraîneur, c'est très lourd pour la suite. Parce qu'il sait très bien que la suite va être scrutée de très près. Et Zidane, c'est quelqu'un qui est formidablement intelligent, Il ne s'est pas lancé dans le métier d'entraîneur du jour au lendemain. Il a pris le temps, il a appris de Mourinho, de Ancelotti, il a pris les jeunes du Real Madrid, alors qu'il aurait pu peut-être prendre les rênes beaucoup plus tôt. Il a choisi de prendre son temps à chaque instant. Et aujourd'hui, il prend son temps parce que, comme l'a dit Duga, et personne ne le connaît mieux que lui, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, il sait très bien que la suite va être très importante et qu'il n'a pas envie ni d'aller prendre un chèque pour prendre un chèque, parce qu'il n'a jamais fonctionné comme ça.
Il n'a pas besoin de gloire, ni d'argent, ni de gloire.
Bon, après, des chèques, voilà. Il en a pris, tant mieux pour lui. Hein. Moi, on n'est pas aigri et jaloux.
C'est pas le leitmotiv.
Pas son moteur.
Sinon, il serait allé entraîner en Arabie Saoudite, ou j'en sais rien. Comme Laurent Blanc l'a fait aussi. Enfin, non, il est pas comme ça. Il a envie d'un projet où il a la totale garantie que le projet est ambitieux, que le club est stable.
J'ai perdu, pas de problème, il n'y a pas de souci, mais quand tu me dis qu'il a besoin d'un projet ambitieux, mais franchement, le club qui a envie d'accueillir Zinedine Zidane, tu penses que rien que ça, le club n'est pas ambitieux, montre pas son ambition?
Jérôme, tu détestes Zizou.
Non, pas du tout, retire ça, je te chauffe, voilà, merci.
Écoute. Tu voudrais, sincèrement, on va dire, tu apprécies Zinedine Zidane. Moi, je l'apprécie encore plus.
Et notre auditeur,
énormément. Est-ce que tu voudrais que Zinedine Zidane aille aujourd'hui dans le club qui n'est pas un club du Paris Saint-Germain? Moi, je le conseillerais jamais. Si tu apprécies le mec, tu l'envoies pas dans cette espèce de club, là.
Ah non, mais moi, j'ai pas envie de le voir au PSG.
Donc, t'as pas envie parce qu'il est Marseillais. Ça n'a rien à voir. Enlève-toi ça de la tête. Est-ce que t'as envie aujourd'hui d'un entraîneur que tu apprécies?
Est-ce que tu recommandes un entraîneur d'aller à Paris?
Bien, ouais. Pour être entraîneur de Paris Saint-Germain?
Ah, franchement, Zidane, il pourrait imposer des choses. Il pourrait.
C'est pas un club, cirque permanent.
Oui, mais d'accord. Aujourd'hui,
regarde, ça peut faire comme Guardiola. Guardiola, plus personne ne lui impose rien.
Je te pose. Bah, tu le sais.
Personne ne lui a jamais rien imposé à Guardiola. Dès le départ, il a imposé les choses.
Non, mais Zidane, tu vas pas le faire. Zidane, tu vas pas lui imposer.
L'émir, il est capable de le faire. Est-ce que tu es sûr que l'émir, il est pas capable de le faire?
Pour Zidane, il peut.
Quand tu me parles. Non, mais, Duga, on parle du PSG, là, éventuellement. Mais encore une fois, moi, je te dis, outre le fait qu'il soit, très identifié Marseille, tout ça, sans avoir joué à Marseille. Attention, j'ai pas forcément envie de le voir sur le banc du PSG. Mais n'empêche que si tu regardes juste l'homme, l'entraîneur et le joueur qu'il a été et l'image qu'il a ici en France, bah franchement, les Qataris, ils peuvent pas lui imposer des choses. Ils peuvent pas lui dire comme ils ont fait à tous les entraîneurs qui sont passés dernièrement. Non, avec lui, tu feras pas. Et c'est pour ça que je te dis que ça pourra pas se faire au PSG. Parce qu'il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il aura pas les mains libres comme il faut.
Moi,
je vais te dire, du gars.
Merci, Kevin.
Ouais. J'aimerais le voir entraîner. Alors après, c'est utopique, hein. Y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais le voir entraîner à Marseille. Tout le monde a rêvé de le voir jouer à Marseille. Bah, pourquoi pas entraîner sa ville? Avec des moyens,
ça serait une belle
histoire,
tu veux dire.
Ah bah ça serait fantastique. Franchement, ça serait fantastique.
Mais tu dis non, du gars.
Non mais l'histoire serait magnifique, l'histoire serait belle. Après faut y vivre à Marseille. Moi j'y ai joué, j'y ai vécu, ça c'est.
Ah tu viens
c'est tellement
puis,
compliqué.
Voilà.
Ouais, non, mais même, ta vie se deviendrait un enfer, ça deviendrait tellement compliqué.
Bon, d'accord. Alors, en parlant de Marseille.
Il va signer au Japon.
Demain, soyez bien à l'écoute d'RMC de 15h à 18h. Super Moscato Show exceptionnel en direct de Marseille l'occasion des 30 ans d'OM Milan. Donc, il y aura plein d'invités exceptionnels autour d'Éric Dimeco. Soyez bien là. Demain, 15h18h.
Ça va être génial.
Dans une seconde, le Casar enchaîné, Julien Casar. Et donc, l'invité hier qu'il ne fallait pas rater dans l'after. À tout de suite.
RMC, 18h20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Il reste 10 minutes de la première heure, bien sûr. On est là, on est bien. C'est le moment de Julien Casar, sans aucun doute. Mais on est toujours avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, donne-nous le programme de la deuxième heure.
Le maintien de Laurent Blanc à Lyon sera une question, un débat en fin de saison. Mais est-ce que vraiment, il faut se poser la question quand on voit le bilan de Blanc depuis qu'il est arrivé, 32-16, pour débattre? Vous entendrez d'ailleurs, en tout cas, je vous parlerai des déclats de Laurent Blanc et de Lacazette sur Jean-Michel Aulas et son départ. Ils se sont exprimés aujourd'hui. Tout de suite, Julien.
RMC, Roten sans flamme.
Le Casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous sommes le jeudi 25 mai et vous avez été nombreux
Il y a réagir. J'ai reçu beaucoup de courriers, beaucoup de mails, de pneumatiques, de textos sur les débats d'hier, sur la nostalgie des présidents à l'ancienne. Oui. T'as écouté du gars, non?
Non, j'ai juste écouté quand tu m'as défoncé que t'as dit que j'ai loupé 90% de mes occasions avec mes pieds tordus.
C'est pas vrai du tout. J'ai dit que tu souffrais de cubisme plantaire. Il n'a rien à voir.
Non, mais
en fait, il y avait un débat sur la nostalgie des présidents à l'ancienne et Claude Bèze et Bernard Tapie. Ils étaient tous, même Manu, plutôt d'accord pour dire que, bah oui, c'était truculent quand même. Il nous manque, ces présidents Claude Bèze et Bernard Tapie. C'est vrai. Eh ben, mais ils sont pas les seuls à penser ça puisque nous avons un témoin. Alors un témoin qui a voulu garder l'anonymat, que nous allons appeler Monsieur X, qui est avec nous à l'antenne. Monsieur X, vous entendez? Bonjour Monsieur X.
Bonjour.
Alors vous avez bien connu Bernard Tapie et Claude Bèze, mais à quelle occasion c'était?
Eh ben j'allais très souvent au stade, au Vélodrome ou au Parc Escure, c'est là que je les croisais.
Ah, vous étiez un fan des Girondins et de l'OM en fait?
Non, j'étais arbitre.
Ah oui, bien sûr. Ils étaient vraiment sympas, comme le disent nos consultants.
Oui, ils avaient de la personnalité à l'époque. Ils venaient tous les jours dire bonjour avant les matchs, après les matchs, à la mi-temps. Ils oubliaient jamais qui vous étiez. Ah, ça, c'est rare pour des gens connus. Hein. Oui. Une fois, même Tapie m'a dit toi, je vais pas t'oublier, toi. Crois-moi, je vais pas t'oublier. C'est quand même, ça prouve que c'est des gens simples. Et Claude Bèze, je me souviens, la veille d'un bord de Nantes, il me croise par hasard devant mon hôtel. Et là, alors j'ai rien demandé, il me laisse son manteau en vison pour pas que j'attrape froid.
C'est sympa, ça, dis donc.
Ah oui, surtout qu'il faisait 28 degrés, c'était fin mai. C'est dire s'il était attentionné. Et une fois après un Bordeaux PSG, il m'a raccompagné avec sa Porsche et il me l'a laissé. Il est rentré en taxi. Il a été trop fatigué pour conduire.
Ah oui,
c'est pour vous dire, c'est gentil déjà de m'avoir accompagné alors qu'il était si fatigué.
C'est vraiment.
En revanche, Bernard Tapie, il était un peu de tête en l'air. Hein.
Ah bon,
une fois, il a oublié sa boîte de Monopoly dans mon vestiaire. Alors, j'ai voulu lui rendre, mais il m'a dit que non, c'est bon, je pouvais la garder. Alors, en même temps, je comprends, il manquait des pièces dans le jeu. Il n'y avait plus les jetons, il n'y avait pas le plateau, il n'y avait pas les cartes de propriété, il y avait juste les billets. Des billets de 500, pas facile de faire de la monnaie pour acheter une gare.
Non.
Mais à côté de ça, c'était un mec super réglo, hein, hyper ponctuel. Hein. Il détestait qu'on débute les matchs en retard.
Ah bon? Comment ça?
Bah oui, il nous a même tous offert une Rolex pour être sûr qu'on soit pas à la bourse.
C'est Bernard,
vous dire s'il était perfectionniste.
C'est Bernard.
En revanche, les plateaux de repas d'avant match, ok, ils étaient bons, mais il y avait toujours un cuisinier qui avait laissé tomber une chevalière en or ou une bague en diamant dans le plat. Vous pouvez mettre des gants quand même en cuisine. Sinon, Bèze et les tapis, c'était vraiment super. Hein. C'est pas comme les présidents d'aujourd'hui. Hein. Oh, ils sont tristes et mal élevés.
Mal élevés, c'était
bah oui, à peine bonjour au début et à la fin du match. Beaucoup moins chaleureux. Hein. Ah non, c'était vraiment la belle époque. Hein.
Bah merci. Hein, pour
de rien.
Allez, ça avait l'air vachement bien. Hein.
Un beau témoignage.
Mais ouais, mais c'est vrai qu'ils étaient sympas. Ils étaient sympas. C'est qu'aujourd'hui, ils sont tristes. Là. Ils vont jamais voir l'arbitre. À la mi-temps, pour dire faire un débriefing. Ouais. C'est quand même sympa d'être débriefé. Bon, voilà. Bon. Alors d'ailleurs, à propos de Monopoly, pour ceux qui sont nostalgiques des 30 ans de la finale du 26 mai, pour le 26, ils ressortent le Monopoly édition OM avec la place des Champs-Élysées et de la rue de la Paix. Bah, c'est évidemment Joël Quignot et Michel Vautreau. Allez, sommaire. Dans cette édition. Ah, mais c'est les plus chers. Hein. Dans cette édition, on fera un focus sur l'invité de l'after d'hier.
Ah oui,
l'after génération. Tu écoutes un peu Génération After, Jérôme?
Bien sûr.
Mais bien sûr, dans ta voiture, avec les embouteillages. Hier soir, le joueur zimbabwéen de Reims, Marshall Munetsi.
Ouais.
Tu vois qui c'est? Bon, très bien.
Bonjour.
Le gars connaît très bien sa carrière.
Munetsi,
Et Munetsi qui sort d'une belle saison avec Reims, qui finit à bon classement, inespéré en début de saison. Et c'est un joueur plein de vie. C'est vraiment un joueur qui est vraiment cool. C'est sympa de le découvrir. Plein de dynamisme, il transmet une belle énergie. Franchement, c'était cool. On écoute comment il l'accueille. C'est vraiment sympa.
Marshall Munetsi est avec nous. Salut Marshall.
Oui, salut, bonjour à tous.
Bonsoir Marshall.
Salut Marshall.
On voit ton sourire à la radio déjà dans le bonsoir. Ouais. Marshall, très heureux de t'accueillir dans Génération.
C'est vraiment sympa. Et le mec, il est sympa, tu vois, il y a une super ambiance. Elle a dit, bon là, on va faire une interview sympa, ils sont bien classés, est-ce que Whistler, il est cool? Allez, Nico Jamin entre en scène, attention, c'est sympa.
Tu te bats aussi pour la condition des jeunes filles au Zimbabwe, hein. Ta famille a vécu un drame, Marshall, également. Tu as parlé de ta cousine alors qu'elle avait que 8 ans, c'est bien ça, hein?
Ouais.
Wouh! Super! Merci, Nico! Le silence n'est pas rajouté, hein.
Mais il y a un décalage, je pense.
Ah non! Il est super content d'être à l'antenne. Et le mec dit ouais. Alors sinon, c'est pas ta cousine qui est morte à 8 ans, non? C'est son côté Mireille Dumas. Il est vraiment sympa. Côté Jean-Marc Morandini. Sacré Nico Jamin. Alors merci Nico. Alors il plombe un peu l'ambiance, mais bon. Alors non. Heureusement, il y a Romain Canuti qui était là. Oui. Journaliste du Phocéen.
Bien sûr.
Journaliste marseillais. Alors lui, il se dit, on va revenir sur le football parce que c'est un peu tendu, là. On sent que c'est chaud. L'autre, il fait la tronche. Parce que derrière, l'autre, il a continué. Alors, c'est vrai. Puis, donc, ta cousine, bien, alors, violée par ton grand frère. Toi, oui, oui. Et sinon, c'était affreux. Et là, il se dit, bon, on va revenir au foot. Et comme il a bien bossé son interview, il pose une question à. à Marshall. Et tu vois, et c'est vraiment pertinent, il tombe pile.
Est-ce que Marshall, Benjani, ça te parle? Tu as entendu parler de cet attaquant qui jouait à Auxerre en Ligue 1?
Oui, c'était mon dernier entraîneur en équipe nationale. Je pense que les jeunes au Zimbabwe connaissent Benjani.
C'est-à-dire que le mec, c'est comme, pas comme si les Zimbabwéens en avaient eu 15 000. Le mec, c'est comme si t'as un Libérien. Toi qui es Libérien, t'as déjà entendu parler de George Weah? Ah bah non, c'est qui? Franchement, vous m'apprenez, c'est quoi ce nom? Le mec, non mais franchement, il tombe pile. Non mais après, le problème, c'est que, évidemment, Nico, tu le connais, il est taquin. Mm-hmm. Et comme il est taquin, l'autre, il se marre derrière, ouais. T'entends le petit sourire. Sauf que Nico, lui, il connaît bien Benjani. Et bah, c'est un journaliste, et quand même, il a bossé, écoute.
Pour moi, le Zimbabwéen que l'on a le plus adoré, qui a le plus marqué la Ligue 1, c'est Benjani.
Karl Benjani,
bien sûr, l'attaquant d'Auxerre.
Bien sûr. Alors, Karl Benjani n'existe pas. Il a confondu avec Karl Medjani, qui est un international algérien, ouais, qui est sur Lyon. Le mec, il te fait. Bien sûr, Karl, oui. Karl Medjani, Karl bien Benjani, sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on se dit qu'on est au max. Et là, tu dis, bon, on va finir avec Jonathan McCarty qui va arriver. Et lui, Jonathan McCarty, il se dit, bah, tiens, je vais prendre une expression, puis je vais l'utiliser à la place d'une autre expression. Ah ouais. Allez, Jonathan, fais-nous rêver.
Revisite les expressions de la langue française avec la Dream Team d'RMC. Aujourd'hui, Jonathan McCarty.
Sur une saison où il arrive, tu dors très très tard. On rappelle que Sampaoli il démissionne le jour de la reprise de l'entraînement. Donc tu dors, arrive un petit peu comme ça, comme le lait sur le feu.
C'était Revisite les expressions de la langue française avec Jonathan McCarty.
Il arrive
comme le lait sur le feu.
T'as le feu puis le lait, il arrive là. Salut.
C'est comme le lait sur le feu.
C'est moi. L'after génération, toutes les bonnes infos, mais à peu près.
Non mais là.
RMC jusqu'à minuit.
L'after à peu près. C'est comme l'after mais avec des infos à peu près.
Donc pour voir tous ces gens. C'est dans combien?
Alors c'est à 20h.
C'est dans 1h15.
Non mais là t'as fait une mauvaise pub, mais d'habitude ils sont très bons quand même.
C'était une mauvaise pub, ça?
Non, mais oui,
c'était une
pub. Allez, c'était une pub. Rendez-vous tout à l'heure à 20h. Et d'ailleurs, un des membres de Génération After, Walid Acherchour, sera là pour le quiz.
On va se régaler.
Excellent, Walid. Donc, voilà.
Ah ouais, en quiz, il n'est pas excellent. La dernière fois, il est venu, il n'a pas donné une réponse.
Ah ouais, il a eu un jour sans, ça arrive.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.